terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
On va parler d'immigration, mais d'immigration économique. Vous le savez, d'ailleurs, c'est une particularité du Québec et du Canada apparemment de consulter des gens, des acteurs de la société civile, comme on dit, avant de prendre ou de mettre en place un certain nombre de décisions. Et c'est le cas notamment avec le ministère de l'immigration et de la francisation et l'autre I, intégration, qui justement est en train de mettre en place une politique pour 2024-2027. Et parmi les différents acteurs que le ministère dont il prend en compte les avis, il y a l'Institut du Québec. La personne que je reçois est bien évidemment économiste principal à l'Institut du Québec. Daï Diallo, bonjour. C'est quoi l'Institut du Québec?
Bonjour Cyril. Bonjour. Ça fait toujours plaisir d'être là avec toi. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de discuter avec Néo-Québec. Donc, très rapidement, l'Institut du Québec, c'est un organisme de recherche socio-économique. Nous, notre travail consiste à regarder un peu ce qui se passe au Québec en termes de politique publique qui concerne nos finances publiques, qui concerne la main-d'œuvre, qui concerne le développement économique, par exemple. Donc, raison pour laquelle, avec cette planification de l'immigration 2024-2027 du Québec, on apporte un peu notre vision sur les enjeux d'immigration économique, notre perspective, et puis aussi on émet quelques recommandations dont on va sûrement parler dans les minutes à venir.
Oui, bon, on va directement rentrer là-dessus. Donc vous avez été reçu, vous avez présenté, je l'ai dit, vous, c'est vraiment l'immigration économique, parce que quand on parle de d'immigration, on parle très souvent, là tantôt on a parlé un peu de pénurie de main d'œuvre, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais quand on parle de d'immigration, on voit l'immigration comme le mouvement naturel, mouvement social de gens qui immigrent, mais il y a aussi l'immigration économique. Et puis là, oui, là, ça vous interpelle. Alors, avant de décliner un peu quelques-unes de vos recommandations, je vais profiter de poser la question. L'immigration, c'est une bonne chose, non, pour l'économie?
Très bonne question, Cyril, puis je vais te répondre tout à l'heure, mais c'était très intéressant tout à l'heure quand tu parlais d'immigration économique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on reçoit différentes formes d'immigration. Mm-hmm. Donc, en termes d'immigration permanente, on a trois grandes catégories. Les immigrants économiques, donc une très grande majorité des immigrants économiques, c'est des travailleurs qualifiés, mais il ne faut pas oublier qu'on reçoit aussi des gens d'affaires, des investisseurs, des entrepreneurs. Mm-hmm. Ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est le regroupement familial. Des gens qui vivent déjà au Québec, qui sont des immigrants permanents, des citoyens canadiens, peuvent demander à faire venir leurs parents, puis leurs enfants et leurs conjoints. Donc c'est possible, mais on a aussi tout ce qui est réfugié. Donc on en a beaucoup parlé au Québec ces dernières années, entre autres avec le chemin Roxham, mais c'est une catégorie d'immigration qui existe aussi. Mm-hmm. Et ceci étant dit, pour la réponse à ta question, est-ce que l'immigration est une bonne chose? Nous, à l'Institut du Québec, on a travaillé sur ces enjeux-là, puis au cours des dernières années, on a sorti des analyses et des rapports, et de manière générale, l'immigration au Québec a un impact positif sur l'économie, a un impact limité, mais qui existe sur tout ce qui est démographie. Donc, de manière générale, on peut dire que l'apport des immigrants au Québec est positif.
Même si vous dites, Daï Diallo, vous dites à l'Institut du Québec que ça n'est pas la seule solution.
Effectivement.
Alors qu'il y a toute une autre école qui estime que, justement, on en a besoin et que c'est la solution à la pénurie de la main-d'œuvre, c'est la solution
au vieillissement de la population,
merci. Vous dites non, mais c'est pas la seule solution.
C'est un enjeu qui est très complexe, l'immigration. Puis effectivement, il faut le voir dans sa globalité. L'immigration fait partie des solutions. Donc ce n'est pas la seule solution. Quand on parle de main-d'œuvre, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre, il y a des enjeux de productivité au Québec qui existent et il va falloir travailler sur ces enjeux de productivité-là. Quand on pense à la technologie, par exemple, il y a des secteurs où la technologie pourrait aider à la réduction de ces enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des catégories de la population québécoise, les personnes, les aînés par exemple, que l'on pourrait mieux mettre à contribution dans les enjeux de main-d'œuvre. Donc tout ça, ça existe et l'immigration en plus est l'une des solutions qui pourrait nous aider à faire face aux défis du Québec. Et quand on parle de vieillissement de la population aussi, il faut reconnaître que le Québec reçoit des immigrants qui sont assez jeunes en général, mais il ne faut pas oublier quand on parle d'immigration permanente, c'est que les chiffres sont aussi relatifs. Avant, on avait des seuils à 50 000 personnes, c'est moins de 1% de la population québécoise. Donc, à la marge, ce ne sera pas la solution ultime pour faire face à ces enjeux de vieillissement de la population, même si le fait d'avoir des immigrants plus jeunes fait en sorte qu'on a des travailleurs plus jeunes, et ça a un effet quand même positif.
Alors, vous avez proposé des recommandations pour bien dire les choses, on va appeler ça des pistes de réflexion. Une sur laquelle tout de suite vous mettez l'emphase, vous dites que, parce que le gouvernement en a parlé, qui voulait rehausser, je ne vais pas dire exclusivement, l'immigration francophone. Et là, vous vous dites, attention, on lève le drapeau, vous dites non. Pourquoi ?
Donc, très clairement, c'est que dans les mois à venir, et même déjà actuellement, le gouvernement du Québec a appelé l'ensemble de la population, pas juste l'Institut du Québec, à venir avec des réflexions sur les orientations qu'il a sorties concernant sa planification de l'immigration 2024-2027. Et parmi ces orientations-là, quand on parle d'immigration économique, la première catégorie dont on parlait tout à l'heure, c'est que le gouvernement du Québec, ses principaux objectifs dans l'immigration 2024-2027, c'est vraiment la valorisation du français. Donc le français participe à la pérennisation de la langue au Québec, et c'est bien normal. Le Québec a ses propres enjeux sociaux, culturels, qu'il explique, mais aussi lutter contre cette pénurie de main-d'œuvre-là. Mais en matière d'immigrants économiques, de travailleurs qualifiés, entre autres, on voudrait recevoir presque exclusivement des immigrants qui parlent français. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est malgré tout, c'est que le Québec est quand même en compétition avec d'autres endroits au Canada. Okay. Donc, tout en voulant effectivement avoir une immigration économique qui parle français, il faut quand même que le programme d'immigration reste compétitif. Donc, c'est pour ça qu'on est venu avec cette recommandation-là. C'est compréhensible de vouloir une immigration qualifié qui parle français, mais il va quand même falloir s'assurer de mettre en place des politiques d'immigration économique qui restent compétitives. Donc il va falloir être sûr de quel niveau de français on veut, puis si ce niveau de français-là, par exemple, est pertinent, autant dans le travail que fait la personne qui va arriver au Québec, et aussi dans cet objectif général-là de pérenniser le français au Québec. Donc il va falloir faire attention.
Donc vous dites prioriser le français, mais n'en faites pas une exclusivité.
C'est ça. Puis dans ces programmes-là, quand vous regardez dans le détail, il existe un sous-programme qui s'en vient, qui sera dans la catégorie générale. Je rentre dans les technicalités.
Non,
ici.
On va essayer de rendre ça
donc,
simple. Ouais.
Du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés qui va remplacer un ancien programme. On a un volet, le volet 4, par exemple pour les talents d'exception, qui dit que ben, ces talents d'exception-là ne seront pas obligés de parler le français. Donc il y a quand même certaines choses qui vont être mises en place pour essayer de réduire les impacts négatifs d'une immigration qui pourrait être totalement francophone, mais pour tous les autres programmes, parce que vous savez, il y a aussi les programmes de l'expérience québécoise dont on va parler tout à l'heure, et peut-être d'autres programmes où cette nécessité de parler le français, on la comprend, mais il va falloir bien la mettre en place.
C'est quoi un talent d'exception?
Un talent d'exception, selon les critères qui ont été donnés par le gouvernement du Québec, c'est quelqu'un qui se démarque de manière exceptionnelle dans son emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir sûrement parce que tous les détails ne sont pas sortis, mais la grande idée, c'est que c'est quelqu'un d'exceptionnel.
Donc, genre Joshua Benjo, par exemple,
Joshua
qui
Benjo,
parle français, mais a priori le même, mais qui ne parle qu'anglais, par
exemple. J'espère qu'on aura plus que des Joshua Benjo, parce que Joshua Benjo, c'est un hyper talent d'exception, si je peux dire ça. Mais c'est dans ces idées-là.
Oui. Alors là, comment dire ça, on vient d'évoquer le programme, comment on appelle ça, le PEC.
Exactement.
Voilà. Et là aussi, c'est aussi un programme où vous estimez qu'on devrait le mettre, on devait plus le prendre en considération.
Effectivement, donc en matière d'immigration économique, il y a des gens qui sont déjà au Québec. Donc, on a des étudiants et on a des travailleurs. Et il existe des voies de passage plus rapides pour ces personnes-là, parce qu'on considère, vu qu'elles sont déjà ici, qu'elles ont une vie ici, qu'elles parlent français, parce que pour pouvoir avoir accès à ces programmes-là, il faut parler le français, que ces gens-là devraient avoir une voie privilégiée. Pardon. Et là, avec les nouvelles orientations, le gouvernement du Québec a mis de l'avant le fait que pour pouvoir bénéficier du programme des étudiants, le PEC étudiant, il fallait avoir étudié dans un programme francophone au Québec. Avant, il fallait juste justifier du fait de parler le français. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on risque de perdre sûrement des étudiants qui sont arrivés au Québec, qui sont allés dans des programmes anglophones, mais qui ont fait l'effort d'apprendre le français. Donc il faut toujours se rappeler que c'est là, en termes de compétitivité aussi, qu'il faut voir est-ce que ces gens-là parlent le français. Et donc, on ne comprend pas que des gens qui sont venus au Québec, qui ont appris le français, soient exclus de cette voie rapide-là. Et nous, ce que l'on propose, c'est qu'il existe une deuxième voie qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise, mais pour les travailleurs. Donc, quelqu'un qui est venu au Québec pour étudier dans un programme anglophone, qui a appris le français, ce serait quand même très intéressant de lui donner cette voie privilégiée-là, parce qu'on risque de perdre des talents. Donc, il pourrait passer par le programme des travailleurs dès qu'il obtient un emploi sans pour autant justifier d'une expérience de 2 ans. Parce que ce programme-là demande de justifier d'une expérience de 2 ans. Mais tu sais, Cyril, que le gouvernement du Canada a quand même fait des efforts pour attirer des immigrants francophones. Mmh. Donc je peux te dire qu'en général, en termes de compétitivité, si on oblige ces étudiants-là à rester 2 ans dans un emploi avant de demander une résidence permanente, on pourrait les perdre. Donc éliminons cette obligation de 2 ans. Et là, on vient d'avoir, on coupe la poire en deux, en fait. Oui, ils ne sont plus dans le programme d'expérience québécoise des étudiants, parce que ça reste un instrument avec lequel on veut mettre de l'aval la francisation du Québec. Mais si ces gens-là parlent français, eh bien qu'ils puissent passer dans le programme d'expérience québécoise des travailleurs, parce que c'est des gens qui sont ici, qui sont intégrés, ils parlent le français, qui ont obtenu un emploi. Et n'oublions pas que les deux axes principaux de la politique québécoise en immigration à venir, c'est la valorisation du français et la réduction des pénuries de main-d'œuvre. Mmh. Ces gens-là parlent français, ils ont un emploi, mais qu'ils aient accès au programme des travailleurs.
Le commun des mortels, là, il doit trouver cette affaire un peu trop compliquée. On peut faire franchement très, très simple. Juste une chose que tu as dit sur laquelle, c'est pas ce que tu disais exactement, mais quand tu disais que le gouvernement fédéral a fait des efforts pour accueillir l'immigration francophone, je dis pour le moins, ils ont un problème avec l'Afrique subsaharienne. Parce qu'on voit beaucoup, que ce soit des étudiants ou des immigrants économiques, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, on voit un peu les délais pour l'obtention de leur visa étudiant ou qui prennent mais une longueur vraiment vraiment inestimable. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, vous souhaitez aussi que le Québec justement interpelle le gouvernement fédéral pour réduire les délais, mais là on rentre dans le problème de pouvoir des deux gouvernements.
Oui, Cyril, effectivement, pour ceux qui s'intéressent à ces enjeux-là, il existe des accords Canada-Québec qui déterminent quel est le pouvoir de tel échelon de gouvernement, le provincial ou le fédéral, dans le cas du Québec. Mais tout simplement, effectivement, aujourd'hui, on constate que pour les immigrants économiques du Québec, les délais de traitement de leurs dossiers sont extrêmement important par rapport à ceux qui viennent du reste du Canada. Okay. J'ai bien fait l'exercice de regarder ce matin quels étaient ces délais. Pour le Québec, on parle de 17 mois. Une fois que vous avez passé l'étape du provincial, donc d'avoir son certificat de sélection du Québec, ça vous prend 17 mois au fédéral, tandis qu'au fédéral, il existe des programmes comme la catégorie Entrée Express où ça prend 5 mois. Donc, je parlais de compétitivité tout à l'heure. Vous savez, un immigrant est un être rationnel qui regarde qu'est-ce qui existe à gauche et à droite. Donc, c'est certain que si ça vous prend 17 mois au Québec et que ça vous prend 5 mois à vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je reste au Québec? Est-ce que je vais à Ottawa? Le Canada est un grand pays. Donc nous, ce que l'on propose avec ces recommandations-là, c'est vraiment qu'il soit mis en place un mécanisme de suivi entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, parce que chacun des deux échelons de gouvernement ont reconnu qu'il y a un enjeu là. Et donc, comment est-ce que l'on suit ce processus-là pour réduire les délais du Québec, pour que le Québec redevienne compétitif par rapport aux autres provinces? Donc ça, c'est une recommandation, c'est un problème qui existe. Et puis, mais les gouvernements ont pris conscience et on ose espérer que dans les années à venir, quelque chose sera fait là pour réduire ces délais-là et ramener le Québec dans une zone de compétitivité par rapport au reste du Canada.
Sinon, il y a d'autres recommandations que vous faites aussi à l'Institut, mais que moi j'appelle dans les dialogues, que moi je vais appeler un peu, vous enfoncer des portes ouvertes. Je veux dire, je m'explique. C'est pas, évidemment, c'est pas vous, mais je parle de l'Institut, la reconnaissance des compétences. On en parle depuis Mathusalem, du problème de la reconnaissance des compétences. Donc, bon, vous revenez là-dessus. Est-ce que vous apportez quelque chose de nouveau par rapport aux demandes qui sont déjà faites?
C'est un très bon point, Cyril. Tu sais, en regardant la situation économique des immigrants au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie, on pourrait prendre 2012-2023, c'est qu'on constate très clairement que la situation des immigrants s'améliore, des immigrants économiques. Donc on a des taux de chômage qui sont beaucoup plus faibles, un rattrapage par rapport aux natifs, on a des taux d'emploi qui sont beaucoup plus élevés, un rattrapage par rapport aux natifs.
Ce que tu dis, excuse-moi de t'interrompre, ça, quand on dit ça s'améliore, c'est de manière globale ou c'est, ça dépend de certaines filières,
c'est,
de certaines...
C'est de manière globale. De manière globale, ça s'améliore. Mais effectivement, quand on regarde les sous-catégories, il y en a qui s'améliorent beaucoup plus que d'autres. Mais l'un des enjeux qui reste, et Cyril, tu l'as bien mentionné, c'est la reconnaissance des compétences. Aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres-là, le taux de surqualification des immigrants, donc c'est-à-dire quelqu'un qui occupe un emploi dont les compétences sont en dessous de ce qu'il sait faire réellement, sont beaucoup plus importants chez les immigrants. En général, c'est au ratio de 1 à 2. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que quand on parlait tout à l'heure d'intégration des immigrants, plus les gens font ce pourquoi ils sont formés et ce pourquoi ils sont compétents, mieux c'est pour l'économie. Bien sûr. Donc, on rappelle cela et on propose, entre autres, les ordres professionnels, entre autres, une collaboration beaucoup plus étroite entre le gouvernement du Québec et les ordres professionnels pour s'assurer que les processus de reconnaissance des compétences, donc quelqu'un qui vient s'installer ici, qui a un diplôme étranger, qui a une formation étrangère, que ça aille beaucoup plus vite pour reconnaître ces compétences-là. Et vraiment regarder où sont les goulots d'étranglement, où sont les murs dont tu parlais, pour s'assurer que ces murs-là disparaissent, parce que c'est un frein à l'économie pour l'ensemble du Québec, autant pour les immigrants que pour les employeurs, que pour l'économie.
Les recommandations, elles sont sur votre site internet, celui de l'Institut du Québec. Les gens peuvent aller les lire. Je veux qu'on finisse avec des questions un peu d'ordre général. Combien d'immigrants par année au Québec?
Cyril, je vois ton beau petit sourire.
Non, parce qu'il y a un débat. Ouais. C'est un débat, j'allais dire national, c'est un débat de toute la société.
Effectivement.
Et on interpelle les acteurs.
Effectivement.
Il faut combien?
Et donc, tu verras, Cyril, je sais que tu nous lis beaucoup, on a déjà sorti des rapports là-dessus où on concluait, entre autres, qu'il n'y a pas de chiffre magique. En fait, il faut aller au-delà de ce chiffre magique-là que l'on cherche. Ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce que cette immigration-là est positive pour le Québec ou non. Et comme je le disais, c'est qu'on regarde dans les 10 dernières années, avec les seuils d'immigration que l'on a reçus, l'intégration des immigrants économiques s'améliore. Donc, il y a une situation qui permet de hausser ces seuils d'immigration-là. On parlait tantôt des enjeux démographiques. Il y a une situation qui permet de hausser ces seuils d'immigration-là. Donc, quand on regarde ces différents facteurs-là, on peut se permettre de passer de 50 000, les seuils que l'on avait durant les dernières années, à 60 000, ce que propose le gouvernement du Québec aujourd'hui parmi ses orientations. Et c'est pour ça que tu verras, Cyril, que notre dernière recommandation, c'est celle-là, que l'on passe de 50 000 à 60 000 pour les enjeux que je viens d'évoquer, parce qu'on peut se permettre d'avoir ces personnes-là. Mais il y a aussi d'autres enjeux, Cyril. Tu vois, on parle beaucoup de logement en ce moment. On parle de services aussi à la population. On voit qu'il y a des lacunes qui existent déjà à ce niveau-là, mais le fardeau ne devrait pas porter sur les immigrants. C'est des enjeux qui existent et c'est des enjeux que l'on peut résoudre d'une certaine manière, mais il faut reconnaître qu'ils existent. Et dans notre politique de planification de l'immigration, il ne faut pas les oublier. Donc, on a des recommandations, par exemple, sur la régionalisation des immigrants. Mais comment est-ce que l'on fait pour avoir plus d'immigrants en région s'il n'y a pas de logement? Donc, dès le départ,
il faut... Il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de service.
Il n'y a pas de service de garde, c'est voilà. Donc, dès le départ, les différents organismes gouvernementaux, quand on parlait du MIFI tout à l'heure, ou d'autres, doivent travailler ensemble pour que l'on sache à combien d'immigrants on va avoir dans les années à venir. Est-ce qu'on a assez de logements pour ces gens-là? Est-ce que l'on peut prévoir du logement pour ces gens-là? Est-ce qu'on a des services pour ces gens-là et pour l'ensemble de la population? Donc ça, c'est à faire ensemble. Et aussi, l'une des choses dont on parle beaucoup dans notre intervention, c'est l'immigration temporaire. La planification de l'immigration porte uniquement sur les permanents. Et c'est un enjeu qu'on a vu au cours des dernières années, parce que l'immigration temporaire a beaucoup augmenté. On a aussi des gens que l'on reçoit de manière temporaire, des étudiants, des travailleurs, mais si on ne sait pas combien de gens on va recevoir, on ne peut pas bien planifier les services. Donc on le redit aussi, c'est que oui, cette année, c'est juste une planification sur les immigrants permanents, mais dans les années à venir, il serait intéressant de voir comment est-ce que l'on peut allier les deux. Comment est-ce que on peut voir qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'immigration temporaire, parce qu'il y a aussi des passerelles entre les deux. L'immigration, ce n'est pas quelque chose qui se fait en silo, les programmes, parce qu'il y a des étudiants étrangers, des travailleurs qui, après, voudraient devenir permanents. Mais si on ne sait pas combien on va en avoir, on peut créer des goulots d'étranglement. Et c'est pour ça, entre autres, que les délais au Québec étaient très importants dans les dernières années en termes de délivrance de la résidence permanente, parce qu'on avait beaucoup d'immigrants temporaires qui faisaient des demandes, et en entre autres, si on avait des seuils qui n'allaient pas avec la hausse de cette immigration temporaire-là, on se retrouvait dans des problèmes. Donc, l'immigration n'est pas quelque chose à gérer en silo. Quand on parle des différents programmes d'immigration permanente, mais aussi, quand on parle d'immigration temporaire, il faudrait voir les dynamiques ensemble, surtout si on veut, par exemple, valoriser le français. Quand on parle de francisation de l'immigration au Québec, ce n'est pas juste les immigrants permanents, c'est aussi les immigrants temporaires qui sont sur place. Exactement. Quand on parle de réduction de la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas juste les immigrants permanents, c'est aussi les immigrants temporaires qui arrivent au Québec pour occuper un emploi de manière temporaire. Il y a aussi des enjeux là.
Est-ce que, je veux qu'on termine là, est-ce qu'on a un bon taux de rétention des immigrants économiques au Québec en ce moment?
Le taux de rétention, il fluctue à travers le temps. Donc, bon, à Malan, c'est à peu près entre 70 et 80% des immigrants que l'on retient après 5 ans. Le taux du Québec est un peu plus faible que de l'Ontario ou d'autres provinces au Canada. En général, on est dans le peloton du milieu. C'est sûr et certain qu'il y a des choses à faire là. Et donc, c'est pour ça qu'entre autres, les nouvelles orientations sur l'immigration permanente devraient contribuer à peut-être réduire ces taux-là. Donc, si on a une immigration francophone, économique, donc ça pourrait aider.
Et la passerelle, tu parlais de passerelle, entre étudiants et qui deviennent après des permanents ou qui veulent travailler, est-ce qu'on a, un taux relativement élevé, un bon taux, ou alors, la moitié des étudiants après repartent?
Mais on peut voir au niveau des chiffres qui existent publiquement, qui sont donc donnés par le MIFI, le plus haut chiffre d'étudiants qui sont devenus, qui ont demandé ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, était de 8000 personnes à peu près. C'était de 8000 personnes. Aujourd'hui, au Québec, on a à peu près plus de 90 000 permis d'études valides. Donc, ce n'est pas tous ces gens-là qui diplôment, bien évidemment. Donc, certains de ces gens-là diplôment, mais c'est pour te dire qu'on n'a pas un taux de rétention clair. Il n'y a pas de taux de rétention clair qui existe là-dessus, mais bon, à Malang, comme je te dis, on parle de quelques milliers de personnes qui décident de rester au Québec après avoir effectué leurs études, donc après avoir diplômé d'un programme d'études postsecondaires, entre autres, donc cégep, université, mais il y a aussi d'autres formations professionnelles qui peuvent mener aussi à pouvoir demander un certificat de sélection du Québec.
Si vous voulez avoir une idée globale et vraiment complètement détaillée des recommandations de l'Institut du Québec, ben vous allez sur leur site et puis vous allez vous allez passer à travers, vous allez voir justement les différents arguments qui ont accompagné ces recommandations là dont vient de nous faire part Daï Diallo. Et ce sera d'ailleurs l'occasion aussi de lire, pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de publications qui sont, je parle pour moi, très utiles. C'est toujours de bonnes connaissances à avoir. Merci beaucoup d'être passé nous parler de ça. Ce sont des recommandations. Et puis, Madame Fréchette et puis tout son staff, ils vont choisir là-dedans qu'est-ce qui les intéresse. Puis, on va amener ça à une autre étape, ainsi de suite. Puis, on verra. Mais là, on est dans les orientations 2024-2027. Là, vous les avez déjà sorties. Les prochaines, en ce moment, tu planches sur quelles... Sur quoi? ou alors on ne dévoile pas ces choses avant la sortie.
Non, je peux la dévoiler, Cyril. En ce moment, on planche beaucoup sur les travailleurs temporaires. J'étais content tout à l'heure quand tu parlais des visas, des étudiants étrangers, etc. Ce rapport qu'on a sorti au mois de mars-avril l'année dernière. Puis la prochaine étape pour nous, c'est vraiment d'avoir cette cartographie complète-là de l'immigration temporaire. Parce que l'immigration temporaire, c'est les étudiants, les travailleurs, mais aussi les demandeurs d'asile. Prochain travail, qui sont les travailleurs temporaires, quel est l'impact de ces travailleurs temporaires sur l'immigration du Québec.
Merci beaucoup, Daï Diallo, d'être venu nous en parler. Je rappelle encore économiste principal à l'Institut du Québec. Mon nom est Cyril Equala.